remarquable. Amen, amen. Donc ce matin, je vous invite tout de suite à tourner avec moi en Ésaïe, chapitre 43. On va lire à partir du verset 18 et 19. Ésaïe 43, verset 18. Donc, pendant que je vous laisse le temps de trouver ce passage, ce matin, on veut poursuivre, on veut terminer cette série que nous avons débutée déjà il y a deux semaines de cela, qui s'intitule « Tourne la page ». Et dans « Tourne la page », l'idée principale qu'on donne, c'est quoi? C'est « Si tu ne tournes pas la page, tu ne seras jamais la fin de l'histoire ». Et on regarde ensemble comment est-ce que Dieu a écrit des belles histoires pour nos vies, mais malheureusement, combien de personnes vivent leur vie en arrêtant de lire beaucoup trop tôt. Vous savez, les disciples, lorsque Jésus les a envoyés aller en mission, prêcher la bonne nouvelle et leur donner le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, les disciples sont revenus vers Jésus tout excités en leur disant « Waouh, maître, même les démons nous sont soumis à ton nom ». Et le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais plutôt que votre nom soit écrit dans les livres de la vie. Et la nouvelle, la bonne nouvelle ce matin, c'est que nos noms sont écrits dans les livres de la vie. Et Dieu a écrit une histoire pour nous. Une belle histoire pour nous. Mais malheureusement, trop de personnes arrêtent de lire justement cette histoire beaucoup trop tôt parce que leur histoire est basée sur peut-être les 10 premières années de leur vie, les 15 premières années de leur vie, les 20 premières années, peu importe, et arrêtent d'espérer pour plus, arrêtent d'espérer pour davantage, arrêtent d'espérer pour la chose qui, malgré tout, est toujours dans votre cœur. Vous savez, quand vous faites semblant que vous avez plus un rêve, mais qui est encore là, ça fait mal. D'essayer de vivre notre vie en reniant, entre guillemets, à ce qui est encore à l'intérieur de nous, ça fait mal. Mais Dieu veut faire des nouvelles choses dans nos vies. Amen. Dieu veut écrire une nouvelle histoire dans nos vies. Et en Ésaïe, au chapitre 43, au verset 19, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ne pensez plus aux événements passés. Pardon. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Combien de gens veulent voir le Seigneur faire des choses nouvelles dans leur vie? Hein? Et la nouveauté, le changement, c'est quelque chose de spécial, OK? Et ce matin, on va parler de ça plus spécifiquement, le changement. Le changement, c'est le genre de choses que tout le monde veut. C'est le genre de choses que tout le monde espère. C'est le genre de choses que tout le monde regarde de loin, mais que peu osent approcher. Hein? Je suis prêt à changer, ou je suis prêt à ce que mes circonstances changent, je suis prêt à ce que ma vie change tant et si longtemps que moi, j'ai pas besoin de changer. Ici, il dit, il va faire une chose nouvelle, et lorsqu'on dit, Dieu va faire une chose nouvelle, alléluia, Dieu va vous donner de nouvelles bénédictions, amen, tout le monde veut des choses nouvelles, tout le monde veut des nouvelles bénédictions, mais ce que la Bible nous dit ici, c'est que, oui, je vais faire des choses nouvelles, mais avant, c'est quoi? Oublier les événements passés. Hein? Tourne la page. Hein? Dis à ton voisin, tourne la page. Parce que vois-tu, tu ne connaîtras pas ce que Dieu a préparé pour toi si tu décides de rester sur la même page. Et ce qui est malheureux, c'est que ces choses-là ont beau être écrites quand même sur les prochaines pages, mais tant et aussi longtemps que tu ne tournes pas la page, tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire. Mais Dieu veut faire des choses nouvelles dans nos vies, des choses nouvelles dans son Église. Et la dernière fois où, à mon souvenir, que ce message-là a été prêché, ou que ce verset-là, ce passage-là a été prêché, c'est le pasteur Randy Landis qui est venu au mois d'août dernier. Okay? Et pasteur Randy, qu'est-ce qu'il a dit? C'est tout simplement, il était en visite au Québec, il n'était pas venu enseigner pour Réma ou quoi que ce soit, il était en vacances au Québec, il avait prévu des vacances avec sa femme à Québec, donc il a dit, tant qu'à ça, je vais passer ici. Et il a appelé pasteur Ken, il lui a dit, je crois que le Seigneur a mis dans mon cœur une parole pour votre Église. Donc, j'étais supposé d'être en vacances, moi, mais le pasteur Ken Taylor m'a dit, pasteur Randy a dit qu'il pense qu'il y a une parole pour notre Église, et je connais pasteur Randy depuis assez longtemps pour savoir que s'il dit qu'il a une parole pour notre Église, c'est parce qu'il a une parole pour notre Église. Alors, OK, avec ma femme, on a déplacé nos vacances, on a été ici, et c'est exactement ce qu'il a prêché. Ce qu'il a dit, c'est que le Seigneur prépare de nouvelles choses pour cette Église. Et son message s'intitulait « Nouvelle route, nouveau chemin ». Et je me souviens très bien les visages des gens qui étaient là ce dimanche-là. Il y avait des « Hallelujah », des « Amen », des mains dans les airs, et « Oui, Seigneur, go, 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 on est prêt ». Mais « nouvelle route », ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut que tu quittes les anciennes. Mais beaucoup de gens vivent leur vie en pensant qu'ils vont arriver à une nouvelle destination en apprenant la même route qu'ils ont toujours pris. Okay? Et vous savez, il y a des études scientifiques qui prouvent que la manière qu'on apprend, qu'on est éduqué, nos expériences, ça crée dans notre cerveau des liens, des connexions. Okay? Et on peut appeler justement ces liens-là, ces connexions-là, des routes. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, ça crée un signal dans ton cerveau. Le même principe que lorsque tu entends, par exemple, de la musique, et cette musique-là automatiquement te ramène à la première fois peut-être ou à un moment marquant dans ta vie où ce que cette musique-là jouait, n'est-ce pas? Et automatiquement, lorsque des nouvelles informations qui rentrent, ces informations prennent les routes qui ont déjà été tracés. C'est pour ça que des fois on dit, « Ah, mais, qu'est-ce que tu veux, lui? Il est comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est ce que je suis. » Mais en réalité, ce n'est pas nécessairement ce que nous sommes. C'est plutôt les routes que nous avons appris à emprunter. Hein? Et ça devient difficile de changer de route, parce que ça se fait tellement naturellement. Une merveilleuse dame du nom de Cécile Nadeau qui m'a donné un pot de relish maison. OK? OK? Amen, oui. Là, je fais de la pub pour vous, Madame Nadeau. OK? Et moi, j'aime beaucoup la relish. Mais voyez-vous, je suis habitué de manger la même sorte de relish que j'achète à l'épicerie, c'est toujours la même. C'est chimique, mais j'aime ça. OK? Au moins, je suis habitué, je sais quel goût a le chimique que je mets en moi. Mais hier, j'ai mangé des bons hot dogs. Bon, je vais dire, j'ai mangé des hot dogs, OK? Et j'ai décidé finalement de tester la relish de Madame Nadeau. Alors, j'ai mangé. Ma femme me dit, puis, est-ce que c'est bon? J'ai dit, ben, c'est différent. OK? Et là, elle n'aime pas autant la relish que moi, mais elle y goûte, elle dit, c'est différent. C'est 20 fois meilleur. Et finalement, je lui dis, T'as raison. Je suis juste pas habitué au goût. Alors j'ai pris une autre bouchée, pour finalement prendre ma cuillère, la mettre dans le pot et rajouter de la relish sur tous mes hot dogs, parce que finalement, je venais de découvrir quelque chose que je me dis, à partir d'aujourd'hui, je serai plus capable, Madame Nadeau, de manger de la relish de l'épicerie. OK, j'espère que vous avez compris ce message subtil. Il a fallu que ça emprunte une autre route. OK? Et on s'entend que ce n'est pas un changement très majeur. OK? Mais dans la vie, on veut changer sans vouloir changer. Mon fils me dit cette semaine, « Papa, viens voir, j'ai changé ma chambre. » Ah ouais? Donc, avec l'aide de sa maman, j'arrive dans la chambre, je vois que son lit est rendu sur l'autre mur, son bureau a changé de place, la lampe est rendue là. Et honnêtement, tu rentres dans la chambre et au premier coup d'œil, tu as l'impression d'être dans une nouvelle chambre. Mais finalement, qu'est-ce qui a réellement changé? Hein? C'est les mêmes meubles, c'est le même couvre-lit, c'est les mêmes jouets. Tout ce qui a changé, c'est la disposition. OK? Et il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie simplement en changeant les meubles de place. OK? Parce que si ça ne marche pas, c'est pas si compliqué de changer un lit de place. Mais si tu dis, ma chambre est en haut, finalement, je décide de faire ma chambre au sous-sol, change la peinture, j'achète des nouveaux meubles, toute la couleur de ma chambre change. Là, on commence à parler changement. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que je vais acheter un chien, ça va changer ma vie. OK? On va peinturer le salon, ça va changer notre vie. Le salon a changé de couleur, mais vous vous parlez toujours aussi mal, ta femme et toi. Le chien est là, c'est le fun, mais à la fin de la journée, quand tout le monde est couché, tu t'inquiètes toujours autant qu'avant. C'est pas juste le temps de bouger les meubles de place, là. C'est le temps d'emprunter des nouveaux chemins. Des nouvelles routes. C'est-à-dire quoi? Oui, oser aller là où vous n'êtes jamais allé. Parce que si vous persistez à aller là où vous êtes toujours allé, devinez quoi? Vous allez arriver là où est-ce que vous êtes toujours arrivé. Et on l'entend dire, et c'est logique, et c'est évident, mais combien de gens vivent leur vie comme ça? En pensant qu'aujourd'hui, peut-être, par magie, je vais prendre exactement le même chemin que d'habitude, mais que, oups, je vais arriver à quelque part de différent. Mais je suis désolé, ça fonctionne pas comme ça. C'est temps de tourner la page. Et pour ça, il faut oublier le passé. Et oublier le passé, là, si on lit quelques versets avant, en Ésaïe 43, on lit à partir du verset 15, OK? Le Seigneur leur dit, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya un chemin dans la mer, ou plutôt qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers soudains, couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. » Qu'est-ce que le Seigneur parle ici? Il parle d'un moment glorieux. Il parle d'un moment où est-ce qu'il a sorti son peuple de l'esclavage. Il parle d'un moment où est-ce que tout semblait perdu, mais que par sa main puissante, il les a délivrés. Il a ouvert la mer devant eux. Il a anéanti ses ennemis. Il parle d'un moment que tout le monde veut chanter. Amen. Ils ont chanté des cantiques là-dessus par la suite. Ils parlent d'un moment qui est écrit à jamais dans leur histoire, mais il leur dit, oubliez les événements passés. Parce que je suis toujours le même Dieu. Je suis toujours aussi puissant. Je vais continuer à vous bénir. Mais si tu penses que je vais agir de la même façon que j'ai agi avant, tu te trompes. Parce que des fois, c'est ça. On prie Dieu aussi. On prie Dieu, ah, fais ci, fais ça. Mais non seulement on dit, fais ci, s'il te plaît, fais ça, s'il te plaît, mais on lui dit comment on veut que ça soit fait. Ah, bien cuit, s'il te plaît, Seigneur. OK? Le Seigneur dit, non. Parce qu'on regarde dans les évangiles combien d'aveugles Jésus a guéri. Et combien de fois est-ce qu'il a utilisé la même méthode? Pourquoi? Parce que c'est Dieu, mais il fait ce qu'il veut. Hein? Mais c'est dire que moi, maintenant, je pars avec de la boue et que je mets de la boue dans le visage de tout le monde. Et je me dis, mais ça ne fonctionne pas. Okay? Et des fois, c'est dur de lâcher prise à comme on a dit, c'est... Tu comprends pourquoi il faut que tu lâches prise de quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie. Même autant que ça soit difficile, tu comprends pourquoi il faut que tu lâches prise de quelque chose qui nuit à ta vie, d'une expérience qui, aujourd'hui, est difficile à toi de supporter. Tu comprends pourquoi, même si c'est difficile pour toi de le faire, pourquoi il faut que tu dois pardonner, pourquoi il faut que tu passes de l'autre côté. Mais c'est difficile de comprendre pourquoi il faut que j'oublie quelque chose qui a bien été. Pourquoi il faut que je prenne une autre route alors que la route que je prends... Ben, ça va bien. Hein? Mais, c'est exactement ce que ma femme a fait dernièrement. Vous savez, j'aime ma femme. Et aujourd'hui, je suis plus fier d'elle que jamais. Pourquoi? Parce qu'elle a tourné la page. Hein? Vous savez, depuis le mois de janvier, on parle de passer de l'autre bord. Et j'ose espérer que depuis le mois de janvier, vous avez découvert c'est quoi votre autre bord. OK? Parce que elle y a fait face à son autre bord. Parce qu'il y a quoi? Elle était en secondaire 4 et... Elle a eu l'occasion de travailler avec une petite fille, de l'aider avec ses devoirs et tout ça. Puis, à partir de ce moment-là, elle a su que c'est ça qu'elle voulait faire. Aider les jeunes à en discuter au niveau de l'apprentissage, les aider à apprendre et tout ça. Donc, secondaire 4 va voir le conseiller pédagogique. Le conseiller pédagogique dit, oublie ça. C'est pas pour toi. T'es beaucoup trop douce. T'es beaucoup trop... Les élèves, ils, comme il a dit, les élèves vont te manger tout rond. Mais, vous savez, il y a deux côtés à une pièce. Et d'un côté, elle est douce. Je vous laisse imaginer la suite, je dis rien, moi. OK? Donc, il a dit, j'y vais quand même. Elle est allée. Et elle a eu son diplôme. Et en sortant de l'université, alors que ça prend normalement 2-3 ans avant d'avoir un poste permanent, le premier poste, le premier endroit où elle est allée, elle a eu sa permanence. Et aujourd'hui, encore, 14 ans plus tard, elle travaille au même endroit, avec à peu près les mêmes personnes. Dans la même classe, je pense. Et c'est dans cette école qu'on s'est rencontrés, elle et moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein? 14 ans. 14 ans au même endroit, 14 ans à bien faire ton travail, 14 ans à ce que tout le monde aime le travail que tu fais. Mais... Il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui dit, c'est temps de passer à autre chose. Mais t'imagines, OK? T'as 16 ans, 17 ans. Tu as décidé ce que tu voulais faire. C'est la seule chose que tu t'imagines faire. C'est finalement ce que tu fais. Tu le fais pendant 14 ans, au même endroit. Et finalement, on dit, c'est le temps de passer à autre chose. Donc, qu'est-ce que vous pensez que... Non. Il y a eu un peu de résistance au début. Okay? Mais, tu sais, quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur commence à nous parler, si on se donne la peine d'être vraiment attentif, ça part pas vraiment. Et on parlait de paix mercredi soir. Et la paix par rapport à rester à cet endroit-là, elle l'avait pas. Elle était effrayée de partir, mais l'idée de rester, elle savait que elle savait à l'intérieur d'elle que c'était fini. Mais pour aller où? Pour faire quoi? Donc, l'année dernière, elle a osé finalement dire, OK, je vais aller voir ce qui se passe. Parce que comment ça fonctionne si tu veux changer de place? Tu demandes une mutation, OK? Et ensuite, il y a une soirée, une réunion, où est-ce que tous les profs de la commission scolaire qui ont demandé une mutation viennent là. Et ils affichent les postes qui sont disponibles, et chacun leur tour, selon leur ordre d'ancienneté, choisissent, ils peuvent choisir. Fait que si c'est rendu à ton tour et il y a un poste à l'écran qui te plaît, tu dis, moi, je veux lui. Mais avant d'avoir le droit de choisir un poste, il faut que tu mettes le tien en jeu. Hein? Donc, l'année dernière, elle est allée, mais elle est allée en s'attendant à avoir tel poste. Hein? Elle avait une idée du poste qu'elle voulait. Et malheureusement, le poste qu'elle voulait n'était pas là. Donc, quand ça a été à son tour, elle a dit, qu'est-ce que vous faites? Elle a dit, je reste là. Mais cette dernière année, mes amis, okay, c'était clair que c'était le temps de partir. Et cette année, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait les autres années. Elle a annoncé à ses collègues de travail que c'était sa dernière année. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Ah oui, où est-ce que tu vas aller? Je ne sais pas. Donc, il y a quoi, une semaine à peine? À peu près une semaine de ça. Elle a sa fameuse réunion. Elle arrive avec son poste et elle arrive au tableau. Elle dit absolument rien. Parce que la crainte, c'est quoi? La crainte, c'est si j'obéis, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Si je lâche, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me dit qu'il va avoir un autre poste? Et si j'ai un autre poste, qu'est-ce qui me dit que ce poste-là va me plaire, va être meilleur que l'autre? Elle me dit, il n'y avait rien, encore une fois, rien. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui a laissé son poste pour choisir un autre, et là, elle a dit, tout s'est mis à bouger. C'est là où finalement, telle personne fait, moi je veux lui, moi je veux là, non. Et finalement, c'est arrivé à elle. Il n'y avait pas exactement ce qu'elle avait imaginé avant. Mais il y avait quelque chose de disponible. Un poste en orthopédagogie. Qui elle, a travaillé pendant 14 ans avec des jeunes, vraiment en difficulté d'apprentissage, mais plutôt en trouble de comportement, OK? En groupe. Et là, en orthopédagogie, c'est vraiment difficulté d'apprentissage un à un. Mais tout ce qu'il dit, c'est orthopédagogie. Il ne dit pas où. Ce n'est pas écrit à quelle école. C'est pas écrit quel quartier. C'est pas écrit à... Il n'y a rien. C'est juste écrit orthopédagogie. Donc, elle me raconte ça, elle dit, oh. Et il y avait une de ses amies, une de ses collègues qui était à côté d'elle, puis qui a dit, c'est le temps, là. Elle a dit, c'est là, là. Elle a dit, si tu veux t'en aller, c'est là. Puis elle a dit, finalement, j'ai dit oui. J'ai laissé mon poste, puis je l'ai pris. Et aujourd'hui, je vous avoue, il y a longtemps que j'ai pas vu ma femme aussi heureuse. Elle n'a aucune idée d'où est-ce qu'elle s'en va. Amen. Elle n'a aucune idée dans quelle école elle va aller. Mais il y a quelque chose, il y a une satisfaction à retirer lorsque tu sais que tu sais que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Il y a une satisfaction, une passion lorsque tu sais que tu as surmonté une muraille. Lorsque tu sais que tu as eu le courage, l'audace de dire « je passe de l'autre bord ». Lorsque tu sais que tu as eu l'audace, le courage d'avoir la foi, d'obéir à Dieu, de faire comme Abraham que Dieu a appelé. Et qu'Abraham a obéi sans savoir où est-ce qu'il s'en allait. La Bible nous dit que c'était un pays de bénédiction, une terre promise. Oui, c'est une terre promise. Oui, t'as beau me dire qu'il y a du lait, il y a du miel, de tout ce que tu veux qui coule là. T'as beau me dire tout ça, mais j'ai aucune idée c'est où. J'ai aucune idée combien ça va me prendre de temps à m'y rendre. Je sais même pas comment je vais faire pour m'y rendre. On est appelé à vivre par la foi, mes amis. Et le problème avec la foi, c'est quoi? C'est que 99,9% du temps, on ne sait pas où est-ce que ça nous amène. C'est pour ça que notre foi doit être basée sur notre relation avec Dieu. C'est là que tu dis, Dieu, je ne comprends rien, mais je te connais. Et si c'est toi qui m'appelles, j'y vais. Dieu, je ne sais pas comment je vais faire pour payer ça. Mais si c'est toi qui m'appelles, je te connais et je sais que tu vas pourvoir. Dieu, je ne sais pas comment tu vas arranger les choses, mais je te connais. Tu as toujours été fidèle dans ma vie et quand tu m'as appelé, jamais tu m'as abandonné, alors j'y vais. Parce que la décision de changer... À la fin de la journée, c'est quoi? Honnêtement, c'est un calcul mathématique. OK? C'est un calcul mathématique. Et pas seulement le calcul mathématique de mettre d'un côté les pour et de mettre d'un côté les contre. OK? Parce que je pense que c'est un bon exercice de faire ça. Mais là où on se trompe, c'est que le pour de Dieu fausse la balance. OK? Parce que tu peux avoir 10 contre et un pour qui pèse plus lourd que tout le reste. Mais le problème, c'est que nous, on fait 10 contre 1. Puis on se dit, mais oui. Hey, on va pas faire ça à cause de ci. On va pas faire ça à cause de ça. Voyons donc. Alors que le seul un, honnêtement, qu'on a besoin, c'est de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu ou non. Est-ce que c'est le Seigneur qui ouvre la porte pour moi ou non? Hein? Est-ce que c'est lui qui me demande de quitter le pays de mon père pour aller m'installer dans une patrie que je connais pas? Est-ce que c'est lui? Oui. Moïse a dit à Dieu, si ce n'est pas toi, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Parce que lui-même nous accompagne lorsqu'il nous demande de partir. Mais ce calcul-là, il y a deux éléments dans le calcul. Okay? Lorsqu'il en vient au changement, les deux éléments dans le calcul sont quoi? Risque et motivation. Okay? Risque. Parce qu'un vrai changement, ça l'implique toujours un risque. Hein? Et finalement, motivation. Est-ce que ta motivation est assez forte pour te faire courir le risque? Hein? Bref, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça va me coûter à moi personnellement? C'est très égoïste, là. Qu'est-ce que ça va me coûter? Et je ne parle pas juste d'argent, là. Qu'est-ce que ça va me coûter de faire ce changement-là par rapport à qu'est-ce que ça va me rapporter? OK? Et tant et aussi longtemps que tu ne juges pas que qu'est-ce que ça va te rapporter est plus grand que qu'est-ce que ça te coûte, je te garantis que tu ne bougeras pas. Et le problème est là. C'est que même en tant qu'enfant de Dieu, on voit 10 contre 1 et on plie. Même en tant qu'enfant de Dieu, on voit les statistiques, on voit les études qui ont été faites et on plie. Alors qu'il y en a un de l'autre côté qui est plus grand que tout. Alors qu'il y en a un de l'autre côté qui a tout mis sous ses pieds. Ah. Oui, mais si ça ne marche pas, de quoi je vais avoir l'air? Je suis bien. Pourquoi est-ce que je voudrais briser ça? Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti comme ça. Ça me fait du bien. Tu veux que je lâche ça pour quelque chose que je ne vois pas encore? Oui, Hébreux 11.1 appelle ça la foi. Une ferme assurance dans les choses qu'on espère et une démonstration de celles que quoi? On ne voit pas. Trop attendre de voir pour bouger alors que Dieu dit « bouge et tu verras ». Tant et si longtemps que tu attends de voir pour bouger, tu bougeras pas. Tant et si longtemps que tous tes calculs devront être parfaits pour bouger, tu bougeras pas. Alors pose-toi la question et... C'est peut-être parce que tes mathématiques sont fausses que tu es encore dans cette situation-là. OK? Si ta vie n'a pas encore bougé, refais ton calcul. Refais ton calcul. Qu'est-ce qui pèse le plus? Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Pour ma femme, ça lui a coûté tout ce qu'elle a toujours connu. Ça lui a coûté une sécurité. Si jamais j'ai un poste que finalement, je suis obligé de descendre dans la liste. S'il faut que je sorte d'un tel groupe pour arriver dans un autre, peut-être que je perds mon ancienneté. La sécurité au niveau financier, la sécurité de je me lève le matin, je sais exactement à quoi m'attendre. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Je ne sais pas trop encore qu'est-ce que ça va me rapporter. Hein? C'est là où ce que je vous dis. Ça commence par notre relation avec Dieu. Ça commence par entendre la voix de Dieu. Ça commence par aller dans la prière et dire, « Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? » Dis seulement une parole. Pas 10, 15, 20, 100. Dis seulement une parole. Dis-moi que c'est toi et je vais y aller. Peu importe ce que les autres disent autour. Peu importe ce que les statistiques disent autour. Peu importe les obstacles qui se présentent devant. Amen. Josué et Caleb ont dit, dis-nous que c'est toi, on va y aller. Peu importe s'il y a des géants. Peu importe si on a l'air de sauterelles à leurs yeux. Parce que qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Oh, si notre Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? C'est exactement ce qu'ils ont dit. Lorsque les 10 autres espions sont arrivés et qu'ils ont dit, ouais, c'est vrai, c'est beau, hein, l'autre côté, quand tu tournes la page, l'histoire est vraiment belle. Quand tu vas de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a du lait et du miel. Mais Dieu a oublié de nous dire quelque chose. Il y a des géants aussi. Et je vous garantis que lorsqu'on va passer de l'autre côté, ils vont nous manger. Mais Josué et Caleb, ils ont dit quoi? Hey, allô? Ils ont dit, OK, vous voyez 10, mais nous ici, on voit 1. Et on dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Parce qu'à la fin de la journée, ça en revient à ça. T'as beau calculer tant que tu veux, mais tu tourneras jamais la page si t'es pas prêt à tourner avec Dieu. Hein? Et Nelson Mandela qui a dit quelque chose, il a dit, il n'y a aucune satisfaction et aucune passion à retirer du fait de ne rien risquer et de se contenter de vivre une vie en deçà de celle qu'on sait que l'on mérite. Okay. Dites-moi ce matin que vous êtes à 100% satisfait de votre vie. Pas que votre vie est tout crache nécessairement, là. Mais dites-moi ce matin qu'il y aurait une plus que vous espérez. Que vous ne vous levez jamais des fois le matin, vous ne vous couchez jamais le soir des fois en vous disant « Et si? » Hein? « Et si? » Et moi, je vous dis ce matin, « Et si vous quittiez les anciens sentiers pour en emprunter de nouveau? » C'est temps de tourner la page. Après 14 ans, ma femme a tourné la page. Et après plus de 22 ans, je crois que c'est l'heure pour nous en tant qu'Église également de tourner la page. Amen? D'emprunter de nouveaux sentiers. D'oublier les événements passés, les choses anciennes, et d'oser entrer dans les nouvelles routes que le Seigneur a pour nous. Amen. Parce que voyez-vous, il y a longtemps de cela, le Seigneur a mis dans mon cœur de... Vous savez, c'est drôle comment Dieu fonctionne des fois. Je savais que Dieu m'appelait à être pasteur avant même qu'il y ait une place de disponible. Et parce qu'il n'y avait pas de place de disponible, je pouvais avoir le luxe de dire non. Je pouvais trouver plein d'excuses. Mais un jour, j'ai dit à Dieu, OK. J'ai dit, si c'est vraiment ce que tu veux pour ma vie, d'accord. Je te fais confiance. Alors, c'est toi qui ouvres les portes. J'ai dit, mais si tu ne viens pas toi-même avec moi, je lui ai dit exactement ça. J'ai dit, si ce n'est pas toi-même qui viens avec moi, demande-moi pas de faire ça. Quelques semaines plus tard, je m'assois avec Pasteur Ken Taylor et il me dit, je pense que le Seigneur nous appelle à autre chose. Et nous avons dans notre cœur que c'est toi et ta femme qui devraient prendre la charge de cette église. Et dans mon cœur, je me disais, je le savais déjà. Mais c'est pas plus facile. OK? Et il y a autre chose que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, je veux accomplir ta vision et ta mission. Pas seulement pour l'Église, la vie comblée, mais pour l'Église de Jésus-Christ. OK? De ramener dans ton Église le pourquoi on appelle ça l'Église. Amen. Et ce parcours a été tumultueux et bénissant à la fois. Et c'est justement ce jour-là, après que le pasteur Randy Landis ait prêché, qu'on est allé manger au restaurant, lui et moi, par la suite, et il m'a dit, je t'invite à venir me visiter chez moi, à voir mon église, voir comment ça fonctionne. Et alors que j'étais là, il m'a fait visiter, il m'a fait faire le tour de la ville et on a passé, finalement, on a arrêté une bâtisse, une belle grande bâtisse. Il m'a dit, c'est ici qu'il y a plusieurs années, le Seigneur, on passait devant ma femme et moi et il nous a dit, c'est cette bâtisse-là que tu vas acheter pour ton église. Et évidemment, à ce moment-là, lorsque le Seigneur lui a dit, c'est cette bâtisse que vous allez acheter, il y avait au moins 60 millions de comptes. Et un pour. Mais le pot, c'est quoi? C'est, tu me dis que c'est toi, j'y vais. Donc, ils sont allés. Et dans cette bâtisse, ils ont grandi d'une centaine de personnes à près de 1000 personnes. Génial. Mais un jour, le Seigneur lui dit, oublie les événements passés. Et il lui met dans son cœur que cette belle église qu'il a bâtie, il dit, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu sépares l'église. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu prends une église de 1000 personnes et tu fais 3 églises avec, dans 3 parties différentes de la ville. Hein? Il dit, c'est quelque chose qui avait presque jamais été fait avant. Mais ils ont obéi. Et aujourd'hui, alors qu'on se parle, ils ont une église, mais 5 locations différentes. Et une seule de ces emplacements-là est aussi grosse, sinon plus que la première église qu'il a divisée au départ. OK? Il faut apprendre à calculer. Il faut apprendre à faire nos maths comme il faut. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et il parle de campus, qu'on appelle les campus mobiles. Okay? C'est-à-dire que tous ces 5 campus-là ont un bureau, une adresse ou un bureau, est-ce qu'ils font différentes réunions et tout ça, qui est stable, mais les autres campus sont ce qu'on appelle mobiles. C'est-à-dire qu'ils se font dans des cinémas, dans une école, l'autre se fait dans un théâtre et d'autres endroits comme ça. Ils arrivent le dimanche matin, ils font à l'église et ils repartent après. Mais, je me souviens de tout le monde, c'était « Wow, Alléluia ». Tu sais qu'on entend le changement, qu'on entend ce que Dieu fait ailleurs, hein, on aime ça. On saute, puis on dit, « Ouais, Seigneur, tu peux faire ça chez nous aussi. » Mais vous savez ce qu'il me dit? Il dit, « Je sens dans mon cœur que la prochaine étape pour votre église, c'est d'être mobile. Okay? » Et sur le coup, je vous avoue, à l'intérieur de moi, parce que j'ai quand même un pasteur de plusieurs années devant moi, j'ose pas lui rire en pleine face, mais... À l'intérieur de moi, c'est... C'est pas pareil pour nous. C'est pas pareil pour nous. Donc, il me dit, rentre chez toi, rentre au Québec, pense-y, et si tu prends une décision d'aller dans ce sens-là, rappelle-moi. Et dans ma tête, c'est, oh, je vous aime beaucoup, mais je vous rappellerai pas. Parce qu'en plus... Je reviens au Québec. Pourquoi? Parce que j'ai un dossier à régler qui est la signature d'une extension de bail de la bâtisse dans laquelle nous sommes ici, avec l'église Pentecôte de Drummondville. Donc, quand je reviens, une des premières choses qu'on doit faire en revenant, c'est rencontrer pasteur Jonathan Verso dans son bureau pour signer une entente de prolongation de bail qui va nous donner 1 an, peut-être 2 ans de plus pour vraiment chercher la bâtisse que Dieu veut qu'on achète. Mais, pendant mon départ, il y a quelqu'un qui était venu visiter la bâtisse et qui a dit, j'achète. Donc, on avait eu oui dire de ça, donc Pasteur Verso, oui, on a entendu dire, dit, ouais, les choses ont changé pas mal en 2 semaines. Il dit, ouais, il y a quelqu'un qui est venu visiter et il a fait une offre d'achat sur la bâtisse et ça devrait être officialisé très bientôt. OK. Donc, l'option numéro 1, hein. Mais, je me dis, ah, peut-être que Pasteur Randy avait raison. Donc, je regarde. Je vais à un endroit, je vais m'informer, est-ce que ça serait possible hein, juste de dire, on vient ici les dimanches, on loue, et il me rappelle finalement, il dit, non, non, il n'y a pas possible, on ne veut rien avoir à faire avec les choses religieuses. Donc, je retourne chez moi un peu, je vais oser utiliser ce terme, oui, un peu découragé. Et je me dis, non, c'était juste une folie, une idée, ça ne marche pas. Donc, je rappelle notre agent d'immeuble qui travaille pour nous pour chercher la bâtisse et je lui dis, écoute, les 5 bâtisses là, qu'on a visitées au courant des 2 dernières années, ils sont toujours à vendre? Oui, c'est bon. Je lui dis, ben là, il faut qu'on quitte là. On ne sait pas encore pour quand, parce que je ne savais pas encore pour quand à cette époque-là. Je lui dis, donc, c'est urgent. Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, on va réexaminer. Parce qu'à l'époque, tu vois, il n'y avait aucune de ces bâtisses qui était parfaite. Il n'y a aucune de ces bâtisses qui rencontrait vraiment à 100% les besoins qu'on avait. Il n'y avait aucune de ces bâtisses que quand je suis allé visiter, j'ai fait, ah oui, c'est vraiment là que le Seigneur veut que j'aille. Mais vous savez, quand on est un peu à côté, au pied du mur, amen, les choses qui n'étaient pas des bonnes idées, tout d'un coup deviennent une bonne idée. Non, mais je sais que ça vous arrive jamais. Mais moi, oui, j'avoue, j'ai fait ça. Donc, je suis allé cogner. On est allé cogner bâtisse numéro 1. Ah, oui, désolé, c'est plus sur le marché. Bâtisse numéro 2. Oui, c'est vrai, là, c'est vendu. 3, vendu. 4, on va avoir une offre bientôt là-dessus. 5, j'ai même pas envie d'y aller. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce que tu devrais toujours faire. Tu retournes dans ton garde-robe, dans ta chambre, et tu pries. Et tu pries. Jusqu'un jour, ce que le Seigneur m'a dit, tu ne pries pas pour la bonne chose. Parce que depuis des années, je priais pour une nouvelle bâtisse. Mais Seigneur dit, tu ne pries pas pour la bonne chose. Dis, demande-moi plutôt, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? OK. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, oublie la bâtisse. C'est pas ça l'important. C'est vraiment pas ça l'important. Et il y a 3 choses qui sont venues dans mon cœur. Et cette chose-là, je l'avais déjà partagée. Il dit, il y a 3 choses qui sont importantes de revenir à. Il dit, je veux que vous réalisiez que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. C'est vous. Okay? On parle de feu, là. Une Église qui a pris en feu. C'est malheureux. Et je me disais, c'est drôle. Mais c'est pas drôle, mais il y a quelques jours, je me disais justement, si la bâtisse prend feu, j'ai dit, qu'est-ce qui devient de l'Église? Et j'ai réalisé que ça serait très difficile de se relever de ça, de s'organiser. Mais c'est pas normal, parce que l'Église, c'est nous. Donc, même si le bâtiment brûle, l'Église, elle, subsiste. Que les premiers disciples ont été persécutés. On les a chassés. Qu'est-ce que ça a fait, ça? Est-ce que ça a fait qu'ils se sont dispersés, que l'Église s'est éteinte? Non, la Bible nous dit qu'ils se sont dispersés. Ils ont continué à prêcher la bonne nouvelle et que l'Église, sous la persécution, a grandi et grandi et grandi. Donc, l'Église, c'est pas un bâtiment, c'est nous. Deuxième chose qu'il m'a dit, c'est l'Église, ce n'est pas seulement le dimanche. Donc, ne soyez pas si focussés sur le dimanche. Parce qu'encore une fois, l'Église, c'est nous. Et j'ose croire que vous êtes aussi lundi. Tiens? Et vous êtes aussi mardi. Mais le problème, justement, c'est parce qu'on est tellement habitué d'aller justement à l'église le dimanche, que lundi, la majorité, il n'y a plus rien même de ce qu'ils ont appris le dimanche. L'église, c'est nous. L'église, c'est pas seulement le dimanche. Et la troisième chose, la plus importante, c'est l'église. N'existe pas pour l'église. OK? L'église n'existe pas pour l'église. Vous voulez des exemples? Vous êtes la lumière du monde. Une lumière n'existe pas pour elle-même. La lumière a été créée pour les ténèbres. Vous êtes le sel de la terre. Le sel n'est pas là pour lui-même, mais fait quoi? Pour assaisonner. Et Jésus, lorsqu'il a marché sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est promené avec les religieux? Non, il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, il dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Et malheureusement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, en général, s'est recentrée sur elle-même. Et je suis convaincu que personne ici peut dire le contraire. On est parti d'une mission de aller faire de toutes les nations les disciples à je viens, je prends et je prends encore. Je prends encore. Et je prends encore toujours plus. Et je garde, alors que l'idée du Seigneur, c'est aller prêcher la bonne nouvelle, aller sauver ceux qui sont perdus, amenez-les à l'église, soignez-leur, montrez-leur qui ils sont, aidez-les à s'édifier, à s'élever, montrez-leur les dons et les talents que j'ai mis en eux, et à faire le suite, renvoyez-les pour qu'ils puissent en chercher d'autres et qu'on ramène et qu'on continue le même processus qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, pas d'aller et de faire de toutes les nations les gens qui vont à l'église le dimanche. Mais que le reste de la semaine, il n'y a aucune espèce de différence dans leur vie. C'est le temps, plus que jamais, de se refocuser sur la mission. De faire de toutes les nations des disciples. OK? Et oui, oui, on a décidé d'y aller vers l'église mobile. Hein? C'est l'option qu'on a décidé de prendre. Pourquoi? Parce que c'est l'option qu'on croit vers laquelle le Seigneur nous envoie. Et alors qu'on examinait les endroits, là où les portes se sont ouvertes pour nous, c'est au cinéma, RGFM, sur le bord de l'autoroute. Oui, ça fait changement des petites bâtisses qu'on est habitué d'aller. Mais, alors que je priais, Seigneur, que ça ne fonctionne pas, et je suis à 100% honnête devant vous ce matin, non seulement il a ouvert la porte, mais ça a été une grâce, une bénédiction. Je suis arrivé, j'avais demandé à ma femme, écoute, les nuits étaient courtes et j'avais préparé une soumission de dire, OK, on va aller au cinéma, voici ce qu'on est prêt à payer. Et je suis arrivé dans le bureau avec ma soumission, dans mon porte-document et tout. Puis là, le gars, il sort une feuille, il commence à écrire dessus des chiffres. Et là, je me dis, ben moi aussi, j'ai des chiffres, j'ai déjà écrit. Et là, je sors ma feuille pour présenter mes chiffres. Mais là, à l'intérieur de moi, ça me dit, sors pas ta feuille. Donc, je tourne ma feuille de bord, OK? Et je prends un crayon, puis je fais semblant, moi aussi, que je vais écrire des chiffres. Alors qu'il y a déjà des chiffres décrits de l'autre côté de ma feuille. Pour que finalement, les chiffres que lui me présente sont plus bas que moi, ce que j'allais lui proposer. Okay? Je vous l'ai dit, nouvelle route. Nouvelle route. c'est quoi le rapport de faire des disciples avec le cinéma? Bonne question. Mais on peut se dire aussi, c'est quoi le rapport de guérir un aveugle avec la salive? Hein? On peut se dire aussi, est-ce que ça fait du sens de dire à un Gédéon qui manque déjà d'estime de soi, de dire, non, attends un petit peu, tu n'iras pas avec tous ceux-là, je veux que tu en prennes juste 300 pour aller combattre des milliers. Est-ce que ça fait du sens, ça? Est-ce que ça fait du sens de dire à un peuple qui est sur le point de prendre une ville comme Jéricho, de dire, non, vous n'allez pas prendre vos meilleures armes, mais vous allez tourner autour, vous allez jouer du tambourin? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens de dire à un lépreux qui va voir le prophète, qu'est-ce que je fais pour être guéri? Va te baigner dans l'eau. Pourquoi? Est-ce que ça fait du sens, hein? Est-ce que ça fait du sens qu'un jour, il y a 3 personnes qui ont été jetées dans une fournaise ardente? Est-ce que ça fait du sens qu'ils sont sortis de la fournaise, même pas brûlés, même pas sentant le feu? Est-ce que ça fait du sens que les hommes qui étaient autour de la fournaise, à l'extérieur de la fournaise, qui ont monté le feu, eux, sont morts par le feu? Et ça fait du sens que ceux qui sont à l'intérieur n'ont pas été touchés? Dites-moi si ça fait du sens. Mais depuis quand on est appelé à faire du sens, nous? Parce que c'est justement en essayant de faire du sens qu'on perd le sens de notre vie. Et qu'on ne bouge pas. Et que soit on envie ceux qui osent avancer, ou soit on les critique. Il y a des apôtres qui étaient là, des disciples qui étaient dans la barque et qui ont regardé Pierre oser, qui a dit quoi? Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il n'a pas demandé comment est-ce que tu fais pour marcher sur l'eau. Écoute, les lois de la physique, il a dit non. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Et j'imagine seulement tous ceux qui étaient restés dans la barque et dire, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Et dans la barque, j'ose croire, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, c'est moi. Mais parce que dans la vie, c'est souvent comme ça. T'en avais dans la barque qui était comme, oh, j'espère qu'il va tomber. Ah oui, pour de vrai. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu sors d'une situation, c'est quand tu as un groupe d'amis qui ont les mêmes problèmes que toi. Puis qu'un jour, toi, tu dis, « Hé, les gars, c'est fini pour moi. » Et que tu décides de sortir. Qu'est-ce que tu fais? Tu leur remets en plein visage leur état. Et si toi, finalement, tu réussis à t'en sortir, ça fait en sorte qu'ils n'ont plus aucune raison de rester là. Et qu'ils réalisent, parce que toi, tu as réussi à t'en sortir, ça signifie qu'eux sont encore là parce qu'ils ont décidé de ne pas y aller. Et qu'ils n'ont pas personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Donc, ils sont là, cool, Pierre, cool, s'il te plaît. Mais il y en a d'autres qui regardent Pierre aller et qui se disent, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va vraiment marcher sur l'eau? Parce que l'espace d'un instant, il se voit à la place de Pierre. Ils se disent, ouais, si Pierre le fait, ça veut dire que je peux le faire aussi. Je vais inviter l'équipe de louange à venir devant, s'il vous plaît. Donc oui, mes amis, ce n'est pas encore officialisé, signé sur papier. Nous sommes en étroite négociation en ce moment pour se réunir les dimanches au cinéma. Mais encore une fois, la question, c'est pas où on va, c'est qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. OK? Et le lien direct avec ça, mes amis, si vous retournez chez vous à essayer de trouver une raison, vous n'en trouverez pas. Est-ce que ça fait du sens qu'un homme pur, sans péché, est mort pour nous? On a sûrement cru à la chose qui fait le moins de sens au monde. La Bible nous dit, la prédication de la croix, c'est une folie. Et encore aujourd'hui, je pense à l'amour de Dieu des fois, puis je me dis, ah, je comprends pas. Moi? Nous? Il y a une église à Acts 21. Sur leur site internet, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. C'est une église qui se réunit à... C'est une église, je pense qu'ils ont 5 ou 6 locations différentes. À Sherbrooke, Magog, Montréal. Et ils se réunissent principalement dans des cinémas, des théâtres et tout. Et sur leur site internet, c'est écrit ceci. Nous croyons que nos véritables racines chrétiennes et québécoises ne sont pas premièrement reliées à un bâtiment, à la messe, ni à aucune autre cérémonie. Nos racines sont bien plus profondes que cela. Nos racines chrétiennes et québécoises nous appellent à une vie authentique et communautaire qui consiste à aimer Dieu et notre prochain. Nous apprenons comment faire partie de la famille de Dieu en tant que disciples et serviteurs de Jésus et participer avec lui à sa mission. C'est le temps de savoir ce que Dieu fait là. C'est temps de s'informer, au lieu de toujours dire Dieu fait ci. C'est temps de commencer à demander, hey, c'est quoi tu es en train de faire là? Parce que je veux me joindre à ça. Je veux me joindre à ta mission. Je veux me joindre à ta vision. Je veux me joindre à l'œuvre que tu es en train de faire. Un jour, Jean-Baptiste est en prison et il entend parler de Jésus. Jean-Baptiste, que toute sa vie a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Et il sent que la fin, justement, de sa vie approche et il envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui devait venir? » Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est dans le fond, c'est toi le chemin pour lequel je l'ai préparé, pardon? Et Jésus lui dit tout simplement oui ou lui dit tout simplement non. Il dit, « Allez et dites à Jean. » Ce que vous voyez. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors je me dis aujourd'hui que si le monde regarde l'Église de Jésus-Christ et pose la question, êtes-vous l'Église qui devait venir? Ou devons-nous en entendre une autre? Êtes-vous l'Église qui est réellement la lumière du monde ou est-ce qu'on doit en entendre une autre? Êtes-vous l'Église qui est le sel de la terre ou on entend une autre? Êtes-vous l'Église qui est appelée à aimer votre prochain, amen, comme vous-même ou est-ce qu'on en entend une autre? Êtes-vous l'Église qui est appelée à ne pas juger mais à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin ou est-ce que j'en entends une autre? Est-ce que vous êtes l'Église qui a une réponse à mon désespoir ou je me tourne vers autre chose? Est-ce que vous êtes l'Église dont la parole de Dieu parle parce qu'à chaque fois je suis allé à l'Église, parce qu'à chaque fois j'ai lu la Bible, il y a eu un contraste entre ce que j'ai lu et ce que j'ai vu? Êtes-vous l'Église qui devait venir? Alors c'est le temps, mes amis, de dire aux gens, allez, racontez ce que vous entendez et ce que vous voyez à l'Église chrétienne La Vie Comblée. Les lépreux sont purifiés, les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est prêchée. C'est trop pour vous? Hein? C'est trop beau pour être vrai, oui, parce que ça fait des années qu'on tourne en rond. Que l'Église de Dieu tourne en rond et s'éloigne de cette mission première qui est là. Et c'est temps de revenir à ça. Plus que jamais. C'est temps de se dire pourquoi pas. Pourquoi pas dans le centre du Québec? Pourquoi pas à Drummondville? Il y a un ami qui m'a conseillé un livre dernièrement qui s'appelle « Redécouvrir l'Église ». Et je me dis, OK, j'ai fait confiance à cet ami-là sans trop savoir exactement de quoi le livre parlait. Et j'ai commandé ce livre-là et cette semaine, j'ai reçu le livre. Et finalement, j'ai lu en arrière du livre et c'est écrit, voici l'histoire de l'église de Willow Creek aux États-Unis. Et découvrez comment Dieu a pris une église de 100 personnes qui se réunissaient dans un petit cinéma. Pour les monter jusqu'à une église de 20 000 personnes. C'est écrit ici, c'est écrit en anglais, je voulais traduire. Mais anglais, français, espagnol, chinois, peu importe, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas que les bonnes choses vous arrivent à vous dans votre vie? Pourquoi pas? Pourquoi pas que c'est juste vos voisins qui sont bénis? Pourquoi si c'est pas encore vous? Pourquoi pas vous avoir une belle vie de famille? Pourquoi pas vous avoir un bon mariage? Pourquoi pas vous avoir un emploi dans lequel vous plaisez? Pourquoi pas vous? Pourquoi ça serait toujours les autres? Et pourquoi ça serait toujours les gens qui viennent prêcher ici, qui racontent tout ce que Dieu fait ailleurs? Et pourquoi que ça serait pas nous un jour qui finalement vont écrire un livre de comment est-ce que Dieu a béni une église dans une province que tout le monde disait que personne veut savoir rien de la religion? Pourquoi pas nous? Est-ce qu'il va y avoir des géants de l'autre côté? Ok, oui. Il y a déjà quelqu'un qui a essayé de marquer un but au hockey que le gardien s'est tassé pour vous laisser marquer? Que Dieu a pour vous dans votre vie, allez le chercher. Et peu importe les géants qui se trouvent entre vous et la volonté de Dieu pour votre vie, peu importe les géants, les obstacles, les montagnes qui se trouvent entre vous et la terre que Dieu vous a promise, dites-vous une chose. Si Dieu est avec vous, si Dieu est avec vous, si Dieu est avec vous, et c'est aujourd'hui, mes amis, à partir d'aujourd'hui, non seulement en tant qu'Église, mais je vous mets au défi, individuellement, chacun d'entre vous aujourd'hui, d'emprunter des nouvelles routes, d'emprunter des nouveaux chemins. Osez emprunter des nouveaux sentiers, osez demander au Seigneur, quel sentier tu désires que j'emprunte? Et oui, il va vous demander d'aller vers un endroit que vous ne connaissez pas encore. Mais le jour où vous allez y arriver, vous allez faire comme ma femme qui se dit avoir su. Amen. Avoir su la joie. Avoir su l'excitation, le sens d'accomplissement. Je l'avais fait bien avant. On va se lever ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais moi, je suis prêt. Je ne sais pas si vous êtes prêts à voir ce que Dieu va faire, mais moi, je suis prêt. Je suis prêt à voir ce qu'il va faire, oui, dans cette église. Amen. Mais je suis prêt à voir surtout ce qu'il va faire dans cette ville. Je suis prêt à voir combien de familles transformées qui vont se rattacher à l'église. Je suis prêt à voir combien de vies vont être restaurées. Je suis prêt à voir combien de gens déprimés vont être consolés. Je suis prêt à voir combien de gens sans espoir, amen, vont être recueillis. Parce que c'est ça l'église. C'est nous l'église. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, mes amis. Alors aujourd'hui, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quoi? C'est est-ce qu'on veut garder le statut? Est-ce qu'on veut mettre toutes nos énergies à dire on veut tout faire pour conserver le confort de 100 personnes qui sont déjà sauvées? On veut tout faire pour ne pas perdre ce que 100 personnes déjà sauvées ont acquis, ou on va tout faire pour aller sauver 100 000 personnes qui sont encore perdus. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la réponse est claire. Pour moi, la réponse est claire. Objectif mission. Objectif Jésus-Christ. Objectif le ciel sur terre. Objectif, alléluia, les cœurs guéris. Objectif, les... Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. On veut lui dire oui, Seigneur. Oh, on te remercie, Seigneur, alléluia. Oh, remerciez-le pour vos vies, Seigneur. Alléluia, remerciez-le pour vos vies. Alléluia. Oh, regardez, parlez-lui maintenant. Demandez-lui maintenant de vous montrer dans vos vies. Alléluia. Les choses que vous avez besoin de laisser derrière. Alléluia. Oh, remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait dans le passé. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous. Amen. Oh, mais Dieu, alléluia. Dieu a des nouveaux chemins pour vous. Dieu a des nouvelles œuvres pour vous. Si seulement vous voulez lui faire confiance. Et ce matin, on dit, Seigneur Jésus, alléluia, on ne décide pas de marcher par la vue. On ne marche pas par qu'est-ce qu'on comprend. On ne marche pas par nos sens. On ne marche pas par la logique, Seigneur, mais on décide de marcher par la foi, alléluia. Oh, parce que si c'est toi qui nous appelles, Seigneur, dis seulement une parole et on va te suivre, Seigneur Dieu. Oh, on prend et on brandit et les armes que tu nous donnes. On prend avec nous la parole de Dieu, alléluia, pour combattre contre les traits enflammés de l'ennemi. Oh oui, parce que nous savons qu'il y a des géants qui se tiennent derrière, alléluia. Oh, mais Seigneur, alléluia. Oh, les géants, c'est rien contre toi, alléluia. Oh, les murailles, c'est rien contre toi, alléluia. La mer devant nous, c'est rien contre toi, alléluia. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'Éternel des armées. Celui à qui rien n'est impossible. Celui qui dit, qui promet et que la chose arrive. Alors, Seigneur, je déclare dans ma vie aujourd'hui que ce que tu as déclaré arrive, alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous mangerons les meilleurs fruits du pays. Alléluia, alléluia, alléluia. Une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Amen. Et dans tout ça, dans les semaines à venir, on va vous donner plus de détails. Comment ça se passe, comment ça avance, comment est-ce qu'on va se préparer pour aller saisir la terre que le Seigneur a pour nous. Mais dans tout ça, au-delà de tout ce qu'on va arriver à accomplir en tant qu'Église, je me réjouis d'avance des vies individuelles ici qui vont être changées. Je veux également entendre les témoignages des gens qui vont oser tourner la page dans vos propres vies. Je veux également entendre les témoignages des gens qui vont oser seulement équipés et armés de la parole de Dieu affronter les géants que vous avez dans vos vies. Et je veux qu'en tant qu'Église, en tant que famille, on puisse se réjouir ensemble de l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et je vous dis, ce n'est que le commencement. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Bonne semaine. Sinon, je reste ici là. Alléluia. Merci. Amen.